France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et l'invité du grand entretien du 7-9 aujourd'hui est chercheur, chaire d'excellence Moyen-Orient Méditerranée de l'Université Paris Sciences et Lettres, École Normale Supérieure, également enseignant à Sciences Po. Il publie chez Gallimard le djihadisme français sous titre Quartier, Syrie, Prison. Ce sont les trois terrains qu'il a explorés ces dernières années et qui ont nourri ce livre savant mais parfaitement accessible à lire absolument pour comprendre le terrorisme. Il est probable, je le dis en passant, que l'ouvrage suscitera le débat qui est toujours vif, parfois polémique même, sur le terrorisme. Hugo Micheron, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ce matin au micro de France Inter au moment du 5e anniversaire de la vague terroriste qui a frappé la France en 2015. Votre livre démarre dans les quartiers, dans des enclaves, parfois un pâté de maison, parfois juste un immeuble d'où sont partis des terroristes. Vous les suivez en Syrie, vous les retrouvez en prison. Votre démarche est à la fois rétrospective, elle permet de comprendre les précédentes vagues d'attentats, mais elle est aussi prospective, puisque vous cherchez à penser ce que pourrait être la prochaine mutation du terrorisme djihadiste. C'est important, on va y venir. Ambition de ce livre, donc, était-ce d'expliquer, Hugo Micheron, de déplier ces parcours terroristes et l'idéologie qui les sous-tend pour penser ce qu'ils peuvent désormais devenir?
Oui, en fait, l'ambition de ce livre, c'était de poser le diagnostic qui a, à mon sens, manqué cruellement dans le débat public depuis 5 ans, depuis notamment les attentats de contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, et donc de revenir sur finalement l'histoire et la géographie du djihadisme français et plus largement sans doute ouest-européen, avec cette idée qui est finalement le djihadisme, ce n'est pas des attentats qui nous tombent sur le bout du nez, c'est un phénomène qui s'est construit dans le temps et dans l'espace. Et donc, pour ce faire, eh bien, il était nécessaire de remonter le temps, d'aller dans ces espaces, et puis, si j'ose dire, de se frotter aux épines du cactus, c'est-à-dire de rencontrer les djihadistes.
On va venir en détail à l'ensemble de ces points. Un mot, tout de même. Trois terrains, je l'ai dit, les banlieues, la Syrie, les prisons. Prisons où sont détenus les terroristes. Même si un chercheur doit être impassible, même s'il est protégé par ses outils théoriques, ses outils méthodologiques, qu'est-ce qui vous a tout de même marqué sur ces trois terrains?
Ce qui m'a énormément marqué, c'est de voir que finalement, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, ces djihadistes se cachaient assez peu. Ils étaient assez affirmés dans leur position. Et j'ai été notamment très surpris de la facilité avec laquelle j'ai réussi à mettre en place les entretiens, notamment en prison, parce que, à vrai dire, beaucoup d'entre eux souhaitaient parler. Ils souffraient, si j'ose dire, de leur image médiatique, d'être réduits à des imbéciles ou à des... Et donc, ils étaient dans une logique d'instrumentalisation à l'égard du chercheur que j'étais, mais qui était aussi facile pour moi, quelque part, de retourner pour obtenir un maximum d'éléments et reconstituer les dynamiques qui, depuis 20 ans, se produisaient en France et dont les attentats étaient une sorte d'exacerbation, en fait.
Alors, entrons, Hugo Micheron, dans votre livre. Vous établissez une géographie du terrorisme, une carte des enclaves dans lesquelles démarrent les parcours terroristes. Vous allez dans les banlieues de villes françaises ou belges. Dites-nous, pour commencer, comment fonctionnent ces enclaves? Je le redis, c'est parfois un quartier, parfois un bloc d'immeuble, parfois un immeuble. Il se joue quoi dans ces endroits?
Eh bien, en fait, alors déjà, c'est pas ces enclaves sont pas superposables en tant que telles aux banlieues françaises. Ça, c'est un élément qui me semble très très important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10-15 zones en France qui sont très concernées par des phénomènes de départ entre 2012 et 2018. Et ce qui s'y joue, généralement, c'est un regroupement d'individus, de militants, de djihadistes. Typiquement, si on prend le cas de Toulouse, qui est un très bon exemple pour comprendre l'ensemble des dynamiques en France, au début des années 2000, on a 10 individus autour des frères Klein, qu'on va retrouver 15 ans plus tard sous Daesh, qui seront les officiers de Daesh, qui vont être ceux qui vont revendiquer les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Et ces individus-là sont déjà présents dans le sud-ouest toulousain au début des années 2000, seulement ils sont 10. Mais ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils vont mettre en place des structures de prédication. Ils vont monter des associations, loi 1901. Ils vont monter des écoles privées hors contrat. Ils vont être présents sur les marchés où ils vendent des artefacts religieux. Ils vont faire venir des prédicateurs de Molenbeek déjà en Belgique au milieu des années 2000. Et finalement, ils vont être itinérants. Ils vont se rendre dans plusieurs quartiers toulousains, puis très rapidement dans les enclaves salafistes du Caire, à Bruxelles. Et finalement, d'une dizaine au début des années 2000, ils seront, leur entourage élargi, il formera un groupe de près de 300 personnes 10 ans plus tard. Et c'est dans cet environnement-là que vont se produire la quasi-totalité des départs de la région toulousaine pour la Syrie et l'Irak. Et c'est dans cet environnement-là qu'on ressortira, qu'émergera un certain Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et Montauban de 2012.
Il y a donc un phénomène d'incubation, mais une question que vous posez aussi et que je vous pose à mon tour. Pourquoi deux quartiers, deux villes, en tout point comparables, parfois très proches géographiquement, vont produire dans un cas des candidats au djihad, parfois nombreux, et dans l'autre, aucun.
Voir le phénomène inverse absolument, c'est-à-dire des individus qui s'impliquent totalement dans la société française et qui sont en tout point opposés aux djihadistes. Eh bien, la raison tient justement à la présence de ces acteurs. Ce qu'on retrouve un peu partout en France, donc dans le cas toulousain, mais aussi dans certains quartiers strasbourgeois, à Trappes, Lille, Roubaix, Tourcoing, Nice, un ensemble de villes où j'ai pu enquêter, généralement, c'est une présence d'acteurs islamistes historiques. On voit notamment un groupe qui a été très, très influent, c'est le GIA. Algérien, le groupement islamique armé, qui était en fait un groupe de djihadistes impliqués dans la guerre civile algérienne et qui, après l'armistice, n'ont pas cru en fait à la libération que leur offrait le régime algérien en échange du dépôt des armes et qui, pour certains, sont partis en exil en Europe et notamment en France. Et ils ont poursuivi leur entreprise de prédication dans ces quartiers. Et de ce point de vue-là, il y a un exemple qui me semble assez parlant, c'est la différence entre Trappes et Chanteloup-les-Vignes. Trappes, malheureusement, et encore une fois, c'est pas toute la ville de Trappes, m'a été très concernée pour les départs en Syrie. Il y a eu 85 départs pour la Syrie et l'Irak entre 2012 et 2018 pour la petite commune de Trappes, 80 000 habitants. Une commune qui, certes, est affligée de tout un tas de maux économiques et sociaux, mais de l'autre côté de la Seine, à quelques kilomètres de là, on a Chanteloup-les-Vignes qui finalement présente le même profil socio-économique, et là on a zéro départ. Donc en fait, réduire le djihadisme à la question socio-économique, finalement, c'est se priver de la compréhension de l'ensemble. C'est une toile de fond très importante, il ne faut pas la mettre de côté, mais elle n'explique pas tout. Il faut aller beaucoup plus loin, et de ce point de vue-là, la présence d'acteurs est très importante.
Avançons, Hugo Micheron, dans le livre et dans votre démarche. Il y a plusieurs, maintenant, partons en Syrie, plusieurs générations, et donc plusieurs profils qui vont arriver au fil du temps sur le terrain en Syrie. Comment les personnes que vous avez interrogées décrivent-elles leur arrivée sur place ? C'est de l'exaltation, de la désillusion, un mélange des deux ? Comment le décrire ?
Oui, ça peut être un mélange des deux, ça va dépendre de la période à laquelle ils sont partis, en fait. En 2012, les premiers départs en Syrie, ce sont les pionniers, ce sont en fait les activistes depuis 10 ans, typiquement les frères Klein, qui depuis 10 ans sont déjà actifs dans l'Hexagone, sont souvent en lien avec des organisations djihadistes irakiennes depuis le milieu des années 2000, et cela, finalement, quand ils vont arriver, ils vont être très vite intégrés aux organisations combattantes et souvent d'ailleurs à des niveaux élevés.
Voilà, avoir beaucoup de pouvoir.
Avoir beaucoup de pouvoir, et c'est comme ça qu'on va retrouver notamment les frères Klein, mais d'autres aussi, qui vont devenir des officiers finalement français de Daesh. À l'inverse, ceux qui sont partis à partir de 2013 et de 2014, et que j'appelle donc la deuxième et troisième vague dans le livre, ceux-là vont être beaucoup plus exposés au combat. Et là, généralement, on a deux évolutions sur place. Ceux qui finalement, face à l'horreur, souhaitent rentrer en France coûte que coûte, quitte à prendre d'ailleurs plusieurs années de prison, et puis d'autres qui vont jouer le jeu de l'ultra-violence de Daesh, monter dans la hiérarchie, ou qu'on va retrouver dans les attentats de 2015 et de 2016 en France.
Ils trouvent une, excusez la question, une jubilation, un bonheur dans la violence, dans la tuerie.
C'est toute une frange, oui, des étrangers qui ont rejoint Daesh. Il y a une frange, c'est pas la seule, mais une frange ultra-violente, finalement, des individus au parcours de violence très affirmé, qui baignaient souvent avant dans la délinquance, et qui vont finalement devenir des virtuoses de la violence de Daesh sur place. Un exemple très précis, c'est Sabri Essid, qui était rien de moins que le mentor de Mohamed Merah, pareillement impliqué dans les filières toulousaines depuis le début des années 2000, et lui sur place va devenir un bourreau, un officier. Il mettra d'ailleurs en scène son beau-fils dans une exécution de 12 ans à peine, dans une exécution d'un otage. Donc ce sont des individus qui vont en fait jouer le jeu de Daesh et qui vont être récompensés.
Vous décrivez le rôle des femmes en Syrie. Elles ne sont pas en première ligne, elles ne combattent pas les armes à la main. Mais elles ont un rôle crucial. Lequel ?
Oui, les femmes, déjà, c'est la première, en fait, c'est le premier changement majeur de Daesh, c'est que jusque-là, toutes les organisations djihadistes auparavant, et notamment Al-Qaïda, se construisaient dans les petits nombres et par l'exclusion, en fait, des femmes du djihadisme. Ce que fait Daesh en se proclamant un pseudo-califat, c'est au contraire de jouer la carte des grands nombres et donc d'accueillir pour la première fois des femmes en son sein. Et donc, il va y avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de femmes qui vont se rendre. Et effectivement, elles sont maintenues à l'arrière, sous Daesh, loin des âmes. des armes, pardon, et leur rôle, ça va être un rôle majeur de recrutement. Par leur seule présence, en fait, elles avalisent la propagande de Daesh, qui est finalement de banaliser totalement le projet, de faire croire que ce que Daesh est en train de réaliser sur place, c'est la mise en place d'un État. Et puis, elles ont évidemment, et ça c'est le revers de la médaille, elles sont réduites à des fonctions reproductrices, si vous voulez. Et ça, ça a été très mal compris dans le débat public, à cause sans doute d'un biais genré, qui fait qu'on a considéré que les femmes étaient victimes de leur embrigadement, alors que souvent on va les retrouver parmi les meilleures recruteuses, si j'ose dire, notamment sur Internet.
Et donc elles ont un rôle de idéologisation aussi pour les combattants qui reviennent à l'arrière à un moment.
Exactement, parce que les hommes, à l'inverse, vont être très confrontés au combat et donc, quelque part, vont faire face à l'horreur du front. Donc, pour eux, la valeur du djihad va se démonétiser face à cette réalité ultra-violente qu'ils vont expérimenter sur le fond. Mmh. Et donc, quand ils rentrent chez eux, les femmes qui, elles, évoluent dans une bulle cognitive à l'arrière, protégées des atrocités du front, ne comprennent pas, finalement, pourquoi les hommes se ramollissent, quelque part. Et donc, elles vont être des sortes de ressorts, si vous voulez, pour regonfler les partisans du djihad sur place.
Hugo Micheron, votre livre est passionnant. Les chapitres que vous consacrez à la prison sont absolument sidérants et on va s'y arrêter quelques instants. Parmi les revenants du djihad, il y a les détenus qui furent en Syrie des anciens des brigades Al-Nosra. Et puis ensuite arrivent des détenus qui furent des anciens de Daesh. Les divisions et les rivalités meurtrières du terrain syrien continuent à structurer la vie de la prison en France.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ces trois territoires que sont les quartiers travaillés par le djihadisme, la Syrie et la prison, en fait, doivent se lire comme une sorte de continuum. Et donc, des combattants français qui ont rejoint des organisations en Syrie, lorsqu'ils reviennent en prison, eux s'identifient par rapport aux allégeances des uns et des autres. Donc, effectivement, une personne qui a servi dans les rangs de Daesh et qui, notamment, ça a été le cas à l'été 2013 parfois, a combattu d'autres groupes djihadistes comme ceux d'Al-Nosra. Mmh. Donc, ils vont être incarcérés en France pour l'administration pénitentiaire. Ce ne sont que des terroristes qui sont donc écroués au même endroit. Mais eux, parfois, se sont combattus. Parfois, se sont opposés idéologiquement. Et donc, finalement, la prison va être un espace de recomposition des rivalités moyen-orientales, des groupes combattants au Moyen-Orient. Et au-delà de ça, ça va être finalement un enjeu pour le contrôle des groupes. Et au début, en 2014, la plupart des groupes sont affiliés à Al-Qaïda en prison. Mais à partir de 2015, les revenants sont plutôt affiliés à Daesh. Il va y avoir un changement de pouvoir dans ce qu'on appelle alors les unités dédiées, qui va en fait favoriser la branche la plus dure des djihadistes. Et c'est ce qui va d'ailleurs causer un certain nombre de débordements dans les prisons françaises à partir de 2016.
Plus stupéfiant encore, vous décrivez la prison comme un phalanstère pour les djihadistes écroués. Expliquez-nous pourquoi vous employez ce mot.
Eh bien, parce qu'en fait, historiquement, et là, ça dépasse largement le cas de la France, les mouvements djihadistes se sont structurés dans deux types d'endroits. Soit ils ont créé des petites enclaves salafistes dans des quartiers qu'ils avaient identifiés, ce que je viens d'expliquer. Soit ils se regroupent à l'inverse dans des communautés rurales fermées, coupées de tout, qui vont devenir des centres idéologiques. Et de ce point de vue-là, malheureusement, d'une certaine manière, les prisons, du fait des regroupements qui vont se produire de djihadistes en leur sein, finalement vont devenir une sorte d'ordre monacal dans lequel les djihadistes vont s'endurcir idéologiquement. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir des individus qui vont contrairement à ce qu'on pourrait croire finalement, ne sont pas du tout immobiles en prison. Ils vont se mettre à reprendre des cursus universitaires avec parfois des histoires sidérantes. Ce recruteur qui va s'inscrire dans un cours de psychologie ou un idéologue qui va reprendre un master d'histoire en prison. Tout ça a été bien évidemment perçu...
Et qui se moque des surveillants...
Qui n'ont pas forcément ce
niveau de diplôme.
Absolument.
Donc la prison, vous le dites Hugo Micheron, ça n'est pas surveiller et punir, c'est se reconstruire, c'est travailler intellectuellement, c'est se cultiver, c'est la grande école, c'est l'ENA, dites-vous, du djihadisme. C'est donc le lieu où s'invente la suite ?
En grande partie, en tout cas, c'est le seul lieu où moi j'ai rencontré effectivement des individus qui étaient structurés idéologiquement et qui se projetaient dans la suite, dans l'après-Daesh en fait, ce qu'ils appelaient l'après-Daesh. Et c'était d'autant plus surprenant que ces individus que j'ai rencontrés notamment à partir de l'été 2016, c'est-à-dire au moment où Daesh n'avait pas encore disparu. Raqqa n'était pas tombé, Mossoul n'était pas tombé, mais ces individus quelque part avaient compris qu'en perdant un certain nombre de postes frontaliers, Daesh était terminé en Syrie, et depuis leur cellule, finalement, avait identifié une chose, c'est que, eh bien, les revenants étaient de plus en plus nombreux et donc que l'espace principal du djihadisme devenait les prisons. Mmh. Et de ce point de vue-là, vous avez raison, la prison n'est pas du tout coupée. Du reste des dynamiques dans la société. De même qu'il n'était pas coupé de ces dynamiques moyen-orientales. Et là-dessus, il y a un biais qui est très important encore dans le débat public qui considère souvent que la prison est coupée de tout. Et que finalement, c'est l'espace sur lequel l'État a le plus grand contrôle. Et donc, mettre des individus au fond d'une cellule, finalement, c'est les immobiliser.
Ça va régler le problème. En fait, pas du tout.
Pas forcément.
C'est un laboratoire.
Pour eux, c'est un laboratoire. Alors après, la pénitentiaire a quand même réagi depuis, en partie en réévaluant un certain nombre de dispositifs. Mais si vous voulez, elle partait de très loin et elle a été prise de court par un phénomène complexe qu'aucune autre institution, parce qu'il ne s'agit pas d'accabler la pénitentiaire, qu'aucune autre institution française n'a réussi à juguler jusque-là. Donc, si vous voulez, la pénitentiaire parent pauvre des administrations françaises se retrouve avec une surresponsabilisée quelque part dans cette démarche.
Est-ce qu'on a trouvé ou est-ce qu'on peut trouver un moyen de régler, peut-être pas régler, mais au moins de traiter la question du djihadisme en prison? Il y a eu un certain nombre d'expérimentations, mais à vous lire, on a l'impression que les outils en fait, ne peuvent même pas avoir d'effet puisque la prison est vécue comme un moment important dans un parcours terroriste.
Oui, d'aucuns le considèrent comme une étape dans leur carrière.
Voilà.
C'était présenté comme tel. Si vous voulez, là où on partait de loin, c'est que il était impossible de comprendre les dynamiques djihadistes en prison à partir du moment où on se privait d'approcher ce phénomène dans ses spécificités. Et c'est toutes les limites, je crois, des approches en termes de radicalisation, dont le corollaire, et c'était la politique mise en place à partir de 2015 dans un premier temps, qui était, on va les déradicaliser. Mais si vous voulez, pour les djihadistes convaincus, évidemment à la marge il y a des individus qu'on peut récupérer, mais pour les djihadistes convaincus, qui forment la majorité de ces individus écroués à l'heure actuelle, il n'y a pas plus de logique à se déradicaliser que pour, si j'ose dire, un honnête citoyen ou un honnête auditeur de France Inter, de se radicaliser au djihadisme. C'est-à-dire que le djihadisme, c'est pas n'importe qui, n'importe où. C'est un construit et en prison, ces individus, une fois regroupés, finalement, vont se surmobiliser parce qu'ils se sentent sous la vigilance de l'État français, mais aussi tout simplement parce que dès qu'il y en a un qui baisse un peu la garde, il a un voisin de cellule qui va le remonter comme un coucou. Et donc la question, c'est de savoir comment on arrive à gérer un phénomène complexe. Et la pénitentiaire n'a pas 36 leviers pour ça. Il y en a deux. Soit c'est le regroupement, on coupe ces individus des droits communs pour éviter la prolifération des idées djihadistes vers la détention ordinaire. Soit on les dissémine, on les coupe, on casse les noyaux et on les répartit dans différentes prisons, au risque aussi de la contamination.
La métastase.
Exactement. Et donc, entre les deux, pour l'instant, la pénitentiaire a hésité. Depuis 2016 et février 2018, il y a eu des nouvelles lois. La pénitentiaire a gagné du temps, mais l'important, c'était quand même de poser le diagnostic et de savoir aborder le djihadisme comme une matière en tant que telle et pas comparer, finalement, les djihadistes à des détenus corses ou basques.
Racontez-nous les Corses, d'ailleurs.
Si vous voulez, historiquement, il y a des collectifs qui ont structuré les établissements pénitentiaires français. Les Corses, les détenus corses sont, de ce point de vue-là, très connus. Ils ne sont pas les seuls, évidemment. Ce qui se passe depuis quelques années, notamment dans les prisons d'Île-de-France où ont été, dans un premier temps, incarcérés les djihadistes, c'est qu'il y a eu un changement de pouvoir. On l'a vu très clairement, ça, à Fleury-Mérogis. J'en raconte un épisode très important à l'été 2016, où, finalement, les détenus djihadistes ont pris l'ascendant dans la cour de promenade sur les détenus corses au point de les intimider jusqu'à ce que des détenus corses historiques demandent à être changés de prison, ce qui montrait qu'il y avait des mutations très très fortes. Et donc vous voyez, les prisons ne sont pas du tout des espaces statiques, mais au contraire des espaces de rapport de force qu'il faut prendre en compte en tant que tel.
Encore beaucoup de questions à vous poser, Hugo Micheron, mais ouvrons le dialogue avec les auditeurs de France Inter. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal à l'antenne. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour monsieur. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que, les terroristes sont issus d'une branche un peu rigoriste de l'islam, notamment les salafistes. Moi, je ne comprends pas qu'en 2016, quand ça a été présenté à l'Assemblée et qu'il y a eu un vote pour fermer les mosquées salafistes en France, ce vote n'a pas abouti, tout simplement parce qu'il y a 153 députés, et pour avoir regardé un peu les listes, c'était les députés socialistes qui ont voté contre cette fermeture des mosquées. Donc je veux dire, on sait très bien que dans ces mosquées, c'est le terreau de ces djihadistes et de ces terroristes. Donc appelons un chat, on peut pas aller faire le beau lorsqu'il y a des commémorations suite aux attentats ou aux anniversaires des attentats, et dans le même temps laisser pourrir cet état.
Merci Pascal pour cette question. Hugo Micheron vous répond.
Oui, le salafisme et notamment l'évolution, parce qu'en fait ce qui se produit, c'est que depuis le 11 septembre 2001, il y a une sorte de révolution salafiste au sein de l'islam de France qui est préoccupante, par ailleurs qui ne concerne pas que la France mais aussi la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et c'est une autre toile de fond. J'évoquais tout à l'heure la dimension économique et sociale, mais le développement du salafisme au sein de l'islam de France est une autre toile de fond. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que notamment chez les idéologues, ceux qui réfléchissent à l'après-Daesh, beaucoup sont également issus d'un autre type de militantisme islamiste, que sont par exemple le mouvement des frères musulmans. Et donc le salafisme n'est pas uniquement l'unique, si vous voulez, porte d'entrée vers le djihadisme. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'il faut même élargir le débat. Il y a quand même une révolution depuis une vingtaine d'années dans l'ensemble du monde musulman. Et effectivement, je crois que dans mon livre, en tout cas, j'essaie de documenter ça au maximum, de façon très dépassionnée, mais en prenant en compte effectivement l'évolution du salafisme.
Samy est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai une question, en fait. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la France? C'est-à-dire, pourquoi la France a-t-elle été le pays le plus touché par les attentats depuis des années, hein? Ça remonte aussi, pas seulement les années 2000, mais même avant. Pour moi, deux facteurs, plus que l'Angleterre, plus que l'Espagne, qui ont été aussi des pays touchés, mais la France a été la cible privilégiée de ces attentats et de cette folie meurtrière. Est-ce que, pour moi, deux facteurs me semblent peut-être importants. L'un est peut-être d'ordre historique, bon, le passé colonialiste de la France, bien sûr. L'autre, peut-être sociologique aussi. Est-ce que la France n'incarne-t-elle pas tout ce que ces gens-là détestent, c'est-à-dire l'amour, la liberté, le féminisme, un certain art de vivre occidental que tous ces meurtriers n'aiment pas et
veulent Samy, combattre. Ouais. Merci Samy pour cette question. Hugo Micheron consacre des pages à ce sujet dans son livre et vous répond.
Les djihadistes, en fait, sont obsédés par le rapport de force. Et beaucoup m'ont raconté qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient visé la France à partir de 2015 de façon assez massive, c'est parce que la France n'avait pas été touchée par les attentats entre 1996 et 2012. Et quelque part, pour eux, c'était une anomalie et il fallait montrer qu'ils étaient capables de frapper la France.
Mais ça n'est pas que ça.
Mais ce n'est pas que ça. L'autre aspect, c'est aussi que la France a été le premier pourvoyeur de djihadistes en Syrie. 2000 Français impliqués sur l'ensemble des années 2012 et 2018, ce qui représente quand même 40% du total de tous les Européens. Et donc Daesh a utilisé, on va dire, cette matière, cette ressource humaine, si j'ose dire, en son sein pour faire des attaques. Et ça n'est pas que ça. Le dernier élément, et ça c'est un des idéologues rencontrés qui l'explique très clairement, il dit la France, c'est l'usine à idées de l'Europe, du monde occidental. C'est un symbole qu'il faut défier. Et si on arrive finalement à remettre en question le vivre ensemble français, un certain nombre de valeurs républicaines fondamentales qui sont en fait l'antithèse du djihadisme, eh bien quelque part ils ont la certitude que leur projet gagne. Et pour eux, la France c'est une sorte de fer de lance, l'ennemi premier à diminuer. C'est pour ça qu'ils ont essayé de s'en prendre aussi violemment à la France, que les attentats ont pesé aussi lourdement sur le tissu français. Et de ce point de vue-là, le tissu français a été plus résistant.
D'ailleurs, non pas parce que la France est faible, mais parce que la France est forte.
Exactement.
Dans son système de valeurs. L'un de vos interlocuteurs terroriste dit on s'en fout de la Suède et du Brésil.
Exactement.
La France c'est le cœur du sujet. Dites-nous à quoi peut ressembler le djihad de demain. Parce que votre livre, c'est aussi une tentative de sortir de la sidération et du retard. On découvre toujours trop tard, après un attentat ou une série d'attentats, dans quel moment terroriste on est. Là, vous dites que peut-être que pour la première fois, grâce à tout ce qui est disponible désormais comme savoir, on peut essayer d'anticiper. Alors, anticiper quoi ?
Eh bien,
vous n'êtes pas devin. Hein.
Absolument, il s'agit pas de faire de l'anticipation, mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, pour la première fois, les djihadistes qui jusque-là disposaient d'une asymétrie sur la société française, parce qu'ils la connaissaient mieux que nous les connaissions, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient pour la plupart français, passés par l'école de la République, donc ils avaient, on va dire, les codes. Du coup, là, ils sont allés tellement loin avec les attentats qu'on peut revenir sur... on a pu produire un savoir. Ce que disent ces individus, c'est que finalement, ils ont perdu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, c'est que le territoire physique de Daesh a été détruit et ils en ont conscience. Par contre, ils ont aussi conscience que le territoire idéologique de Daesh n'a pas été détruit et ils en sont la preuve. Et donc, ce qu'ils projettent pour l'instant, c'est, si vous voulez, l'idée, c'est de passer sous les radars, de mettre en suspens pour ce qu'ils espèrent en tout cas, c'est en partie un fantasme, les attentats, perdre en visibilité, si vous voulez, dans le but de reconsolider leurs forces et d'étendre leur réseau. Leur logique est la suivante. Il y avait 2000 Français impliqués dans les réseaux de Daesh et ils ont réussi à mettre à mal l'état sécuritaire en France. Leur idée, c'est de dire, il faut que demain, ils soient 20 000, 200 000 pour, Mais c'est en grande partie un fantasme, mais il faut comprendre que c'est ça qu'ils projettent. Et de ce point de vue-là, il y a un voisin de cellule d'Amedi Koulibaly, qui a été l'auteur de l'attentat contre l'hypercachère, qui dit la chose suivante. Nous, c'est-à-dire sa génération, il avait 35 ans, de djihadistes, on est la génération sacrifiée. Je sais que je vais être suivi par la police dès que je vais sortir de prison. En revanche, on éduque nos enfants dans la doctrine de façon à ce que, quand ils auront notre âge, le rapport de force leur soit favorable. Et donc, la question se déplace, si vous voulez, de la sécurité vers le sociétal. Et c'est un enjeu qu'il faut prendre en compte, qui, à mon sens, est moins bien couvert.
Hugo Micheron, quel livre. Merci d'avoir été au micro de France Inter. Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, est publié aux éditions Gallimard. Et peut-être l'avez-vous écouté, si ça n'est pas le cas, je vous donne la référence. Je voudrais renvoyer évidemment à l'exceptionnel podcast, série de podcasts de Sarah Guibaudot, intitulé 13 novembre, l'enquête, à télécharger sur toutes les plateformes de podcast et à écouter aussi sur le site de France Inter. Merci encore, Hugo Micheron.
Merci.